création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Quand il était enfant, on l'appelait le taciturne. Il disait « Moi, j'étais timide, mais je regardais ». Après un passage à l'âge de 19 ans dans le maquis du Vercors, il est parti pour travailler dans une usine. Un jour, il a pris le train pour Paris, est arrivé gare de Lyon et n'a pas pris de billet retour. Il est devenu photographe, il s'appelle Marc Ribou et a cessé de photographier sur cette terre le 30 août 2016. Nous retrouvons sa voix ce soir en compagnie de Peter Knapp, Claude Pinoteau, Daniel Janet, Michel Conta, Laurent de Troil, Michel Rodolfi, Dimitri Tsepeneag, Jean-Marc Jau et Louis Dandrel. Cœur de fer, brève rencontre par Pierre-François et Marie-France Nussbaum, diffusée une première fois le 17 janvier 1996. Création on air.
Vous avez connu beaucoup des gares désertes ?
Oui, là, c'est celle de Weimar qui est pour moi la plus impressionnante, que j'ai découverte l'an dernier en Allemagne, donc, ex-Allemagne de l'Est. Et j'étais étonné par le sorte de baleine creuse qu'est la gare, avec une acoustique de cathédrale et des messages très résonnants qui rebondissent à l'intérieur. Donc ça, c'était une gare très vide, qui donnait un peu l'impression aussi d'être une gare venant d'un autre âge et peut-être en effet d'une autre culture.
Je pense que la mémoire travaille énormément dans la formation des représentations qu'on a, qu'elles soient visuelles ou sonores d'ailleurs. Et moi, j'ai des images de gare qui naturellement date d'une époque qui n'est pas la nôtre. Et il y a deux ou trois mots clés que je pourrais évoquer, c'est les pas perdus, la notion de pas perdus. Et quand on était donc enfant, on pouvait parler de salle des pas perdus. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, un pas perdu. Le pain perdu, éventuellement, on savait, mais les pas, on savait pas vraiment. Et la première fois que j'ai entendu une très grande gare, parce que je suis né dans un petit village, donc la gare de province, c'était une sorte de chose un peu particulière, petite, c'était comme une sorte d'extension de maison. Mais la grande gare parisienne, la halle monumentale, avec cette étonnante réverbération extraordinairement longue, les gens qui parlent et la voix qui s'enfuit, ça c'est le pas perdu, le pas qui s'en va dans la résonance même du lieu et de l'architecture. Ça c'était une grande découverte.
Il y a une époque, moi j'ai connu encore des trains à vapeur et tout ça, et une époque dans les années 60, par exemple la gare Saint-Lazare, j'étais parisien à cette époque, la gare Saint-Lazare, il y avait encore plein de locomotives à vapeur, la gare du Nord et tout ça, et il y avait un moment de la journée, c'était absolument grandiose, parce que vous aviez tout le soleil qui tombait des grandes verrières et qui inondait tout ça, tous ces panaches de fumée, tous ces... Vous savez, c'était une ambiance incroyable, extraordinaire. Donc, bon, beaucoup de gens comme Monet, tout ça, ont été fous de ces endroits-là. Je veux dire, Monet, il y a une peinture bien connue, qui est la gare Saint-Lazare, justement, avec tous ces trucs à la peur. Et en fait, il y avait toute une atmosphère qui n'existe plus, sauf peut-être aux Indes, ou je ne sais pas où, dans des coins, en Amérique du Sud. Toute une vie, un allaitement de machines, tout ça, c'était absolument extraordinaire. Maintenant, bon, c'est différent, c'est un peu tristounet, quoi. Les gares européennes, oui, les gares françaises. Maintenant, il n'y a plus cette vie mécanique. C'est devenu un peu comme le métro, le train, maintenant.
faire rentrer dans la gare la mémoire des sons du passé, à l'époque où en effet les gares étaient des sortes de poumons énormes, de poumons d'acier, dans lesquels il y avait le râle des machines à vapeur, des bielles au repos, des soupapes qui crachent la vapeur excédentaire, et où on entendait des étouffements, des râles, des soupirs de machines. Certainement une des images les plus fortes, je pense, de la modernité, c'est cette technologie humanisée quelque part, mais bestiale, la fameuse bête humaine, qui consistait à avoir ses corps de métal alignés dans la gare et tous soupirant à leur propre rythme. Les gares qui sont devenues en sont plus des espaces de humains que des espaces machines, parce que les machines sont devenues silencieuses. Regardez, enfin ce matin, bien sûr, il y a grève, mais toutes ces machines ne font plus de bruit, elles sont électriques. Il n'y a même plus le diesel. Le diesel qui pue, mais qui fait aussi encore quelques beaux sons des Michelines. Maintenant, c'est tout électrique. Donc, on a un son qui est un son social. Il y a une époque où le son des gares était avant tout le son des machines.
Muse et décor, la gare palpite dans de nombreux films et photos et offre aux musiciens contemporains un formidable creuset de sons chargés d'histoire et d'aventure. L'œil et l'oreille, privilégiés des gares, restent les hôtes favoris des créateurs qui jettent sur la pellicule, la bande magnétique ou la page blanche, ce flot d'émotions, saisi dans l'instant juste, cette intelligence du geste et du verbe. Les réalisateurs, les photographes, les musiciens, les écrivains, les poètes entretiennent la mémoire des gares. Ces gares dont la halle résonne des éclats de vie avides de départ, de liberté et d'ailleurs.
Où est-ce qu'on est là ?
Ici, nous sommes
ici,
au cœur de la gare de Lyon. Nous sommes derrière nous, l'entrée du train bleu, ce fameux restaurant, et devant nous, tous les TGV, si les freins ne marchaient pas, ils viendraient buter contre nous. Et nous voyons ces perspectives qui est très caractéristique de toutes les gares, c'est-à-dire il y a 7, 8, 9, 10 quais, et la perspective idéale qui rejoignent le point idéal de la perspective, qui est l'infini devant nous. Et c'est comme un poste de commandement. Un véritable chef de gare, autrefois, il se tiendrait ici, peut-être avec une baie vitrée. Et je vous assure que les heures de pointe, d'arrivée, de TGV, de Lyon, c'est une marée humaine. Et j'ai suivi aussi les premiers trains qui s'en vont. Et on voit les gens pressés, on voit les gens peur de rater leur train. Mais là, j'ai beaucoup traîné. J'ai beaucoup traîné pour faire des photos, mais il y a bien, bien longtemps, j'arrivais dans cette gare en venant de Lyon. Je suis né à Lyon et la première fois que je suis venu à Paris, c'est en montant, comme on l'a dit à Lyon, à Paris.
C'est pour ça que vous avez choisi ce soir cette gare, vous avez accepté cette balade, disons ?
Un petit peu, parce que pour moi, c'est vrai que la gare de Lyon dit beaucoup de choses pour moi, évoque beaucoup de choses. Elle évoque évidemment Lyon. Je retourne pas très souvent, mais de temps en temps. Et puis, j'aime Lyon, surtout depuis que j'ai quitté Lyon. Vous savez, on aime sa famille quand on a quitté sa famille. Et Lyon, bien sûr, veut dire beaucoup de choses. Et je suis devenu photographe parce que je travaillais dans une usine à Lyon. Et un jour, j'ai pris 8 jours de congé pour faire des photos. Et j'ai pris le train pour Paris. Et je ne suis jamais retourné dans cette usine, ils m'attendent toujours.
Thank you.
Peter Knapp, vous nous disiez les Suisses arrivent toujours par le train.
Notre génération, ça veut dire que ceux qui sont nés entre 20 et 40 sont arrivés soit à la gare de l'Est, soit à la gare de Lyon, parce qu'ils venaient de Genève, ou de Zurich, ou de Bâle, ou de Saint-Gall, ou de Chur. Hein. Et moi, mon souvenir est très très précis. J'ai pris le train à la gare de Enghe à Zurich le 28 avril 1952. Je suis arrivé première classe, j'ai payé mon billet 98 francs, c'était plus cher qu'aujourd'hui, et j'avais pas de wagon-lit, j'étais habillé normalement, assis normalement, et la locomotive était vapeur, évidemment. Et l'arrivée était annoncée pour 7h10 ici à Paris. J'étais réveillé évidemment bien avant, je regardais le jour et se lève déjà tôt, en fin avril, et le train a ralenti beaucoup pour rentrer dans Paris. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'on voyait encore sur l'architecture que c'était coupé comme du fromage, ce chemin qui rentre dans la ville, toutes ces pans murés qui sont plats, et à l'époque il y avait énormément de publicité, de Suze, du bonnet qui était peinte là-dessus. Et quand le train s'est arrêté à la gare de l'Est, là, ce qui est maintenant la voie 28, c'était 7h11. Donc le premier préjugé que les Français ne sont pas précis était tout de suite enlevé.
Est-ce que ce que vous me dites là annonçait le Paris de vos rêves ?
Ça s'est enchaîné immédiatement parce que, vous savez, comme la majorité des Suisses, depuis leur toute petite enfance, on leur raconte combien le pays est petit et que la fin des études doit se faire à l'étranger. On va à Milan, on va, dans le temps, on allait à Heidelberg, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on n'allait plus beaucoup en Allemagne, donc, et aux Beaux-Arts de Zurich, on nous a dit d'aller à Paris. Donc quand les aînés vous disent cela, vous faites ça avec un certain respect, n'est-ce pas ? Alors donc, arrivé à la gare 7h11, le respect était tout à fait confirmé, mais après, descendant boulevard Sébastopol, toutes ces petites boutiques peintes en vert et rouge, et arrivé à l'hôtel du phare, à la Motte Piquet, j'ouvrais le robinet de l'eau froide, c'était chaud, et le robinet chaud était froid, et la poignée de la fenêtre m'est restée à la main. Vous voyez donc, c'est-à-dire qu'immédiatement, j'ai eu des vérités et des contre-vérités de ce qui est dans l'imagination d'un jeune homme.
Michel Cantat, est-ce que votre première arrivée en gare de Paris fut tout aussi brillante ?
Je n'ai pas de souvenir que le train ait eu le moindre retard, ni au départ, ni à l'arrivée. Donc, je partais pour fêter mon baccalauréat. Je venais de l'obtenir avec un peu de retard, j'avais 20 ans passé. Et mon père m'avait invité à Paris, il y était déjà en séjour. Et c'était mon rêve depuis, depuis l'âge de 12 ans. Mon rêve secret, c'était de vivre à Paris. C'était un rêve que j'ai fini par réaliser. Alors l'arrivée du train en gare de Lyon, pour moi, c'était l'arrivée de Moïse sur la Terre Promise. Seulement, comme vous savez, Moïse n'y atteint jamais vraiment. Donc je suis à Paris, mais je n'ai pas atteint la Terre Promise. J'y ai rempli la plupart de mes objectifs. Paris ne m'a jamais déçu. Je guettais dans Paris, par exemple, Peter Knapp parlait de la façon dont il regardait le paysage aux abords de Paris. Moi, ce que je cherchais, c'était en 59 les traces de l'occupation, de la résistance. Le film qui m'avait peut-être le plus marqué, c'était La bataille du rail de René Clément, qui est probablement le seul film sur la résistance française. Mais ce qu'on réalise, ce n'est pas le rêve, c'est autre chose. Je pourrais vous en reparler après, mais je crois que c'est maintenant à Daniel Janet de raconter son arrivée.
Alors, je suis Suisse comme tous les Suisses, beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire que j'ai une grand-mère italienne. J'ai un arrière-grand-père français, c'est un rescapé de la semaine sanglante de la Commune qui avait épousé une Allemande, arrivant en Suisse avec son petit bâton au bord du Doubs, parlementait pour pouvoir entrer donc en 1871. Il épousait une bonne à tout faire au Locle qui était allemande et qui chantait des cantiques sur un petit harmonium que j'ai pieusement conservé à cette époque-là. Et d'un autre côté, il y a encore un Hollandais. Donc on secoue tout ça dans un sac. Ça donne un Suisse qui est aussi arrivé par la gare de l'Est pour la première fois à Paris, puisque à l'époque, j'habitais dans le Jura. Jura bernois, enfin le Jura, une partie est libre aujourd'hui, vous le savez, c'est le 23e canton. Et nous partions de Delle, Belfort. C'était un train de nuit, le premier train qui m'avait emmené à Paris. Je me souviens toujours que vers 3h du matin, nous arrivions à Culmont-Chalindrey. Il y avait une petite poussette grinçante qui vendait des sandwichs qui avaient un goût de sciure. Et il y avait un nom, la personne qui poussait ce petit chariot avait un nom de chatte coupée. Il disait Culmont-Chalindrey. Il y avait un petit haut-parleur qui crachotait dans la nuit. Et on arrive ici au petit matin, on est jeté là. Et j'avais déjà un rôle, je dirais, d'aubergiste, puisque dans toute cette aventure, je me borne à être un aubergiste pour les artistes, les écrivains, les critiques, les intellectuels comme Michel Conta, comme Peter Knapp, puisque une amie qui m'avait accompagné à cette époque, on était gosses, on avait 16-17 ans, m'a rappelé que je portais une petite serviette, un petit cartable et une grosse valise. Je ne me souvenais plus du détail. Et dans la grosse valise, qu'y avait-il ? Il y avait des bouteilles de vin blanc, un sac de fromage suisse, car j'étais reçu par un journaliste suisse qui crevait un peu la misère à Paris, qui travaillait à Combat, qui s'appelait Voirol. Et donc là-dessus, il y avait une chemise blanche. Heureusement que j'en avais une deuxième, car le train à vapeur, c'était en 59, crachotait encore beaucoup de fumée. Et la petite chemise blanche que j'avais mise à l'arrivée était noire, au départ était noire à l'arrivée. Et voilà, donc je me retrouve aujourd'hui, 30-40 ans après, également aubergiste, servant la fondue à des amis que j'admire.
Ne pas parler de cette ambiance, Claude Pinoteau, de la gare Saint-Lazare déserte avec cette ambiance musicale un peu ringarde, mais en tout cas de ce qu'on voit là, cet espace.
Ah oui, c'est totalement surréaliste. Il faut avoir la chance ou la malchance qu'il y a des grèves pour arriver à avoir un décor pareil. Au fond, ce serait mon rêve si je venais travailler un jour avec Gare Saint-Lazare, qu'il n'y ait absolument personne et que ce soit transformé en studio. Quel beau studio, quelle hauteur de plafond, quelle structure, quelle architecture. Plus je regarde cette gare, plus elle a l'air d'un grand jouet abandonné. Parce qu'il y a des locomotives, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, enfin qui sont à quai et qui ont l'air de magnifiques jouets en attente d'enfants qui viendraient jouer avec. Là, c'est un immense jouet, mais à l'approche de Noël, pour le moment, le Père Noël n'est pas encore descendu. Personne ne joue encore avec ces machines. Alors, évidemment, les gares sont toujours, comme d'ailleurs les aéroports, comme les ports, ça inspire beaucoup les auteurs. Parce que qui dit gare dit départ. Parfois départ à deux ou départ tout seul. Il y en a un qui reste sur le quai. Bon, il y a quelque chose d'un peu facilement pathétique, peut-être facilement romantique, mais qui de tout temps, surtout quand la distance était très longue. Je me souviens quand mon père, qui était dans le cinéma, partait pour tourner l'eau du Nil en Égypte, il y avait des quand il partait sur la gare de Lyon pour prendre son bateau à Marseille, je sais que c'était déchirant parce qu'on savait qu'on ne le verrait pas avant 3 mois. Et pour nous, l'Égypte à cette époque-là, c'était une grande aventure. J'ai tourné dans les gares pendant beaucoup de mes films. Dans Le Silencieux, j'ai tourné à la gare qui était censée être d'ailleurs la gare de Salzbourg, qui en fait était une gare parisienne. Et c'était une scène avec Lino Ventura. Et en effet, il y avait là un départ, mais un départ qui était sur un mode policier, sur un mode de suspense. Alors que, par exemple, dans mon second film, qui était La Gifle, il y avait deux scènes de gare. Il y avait une scène de gare où Nicole Courcel quittait Lino Ventura, Lino restant sur le quai, et Nicole partant, c'était une rupture entre deux amants, et avec quelque chose de particulièrement émouvant dans les yeux de Nicole, emportée malgré elle par ce train qui l'éloignait de cet homme qu'elle aimait. Et puis cette espèce de froideur apparente d'Emilio Ventura, qui avait décidé de quitter cette femme et qui lui restait sur le quai, très froid extérieurement. Justement parce qu'il était de marbre, la scène en était que plus émouvante. Bon, là, on a tourné une autre scène ensuite avec Isabella Gianni dans le train. Ce qui est toujours épatant pour un metteur en scène, c'est qu'on a l'impression qu'on commande tout d'un coup une rame de train à une locomotive. Alors, tout d'un coup, on fait signe à l'assistant. Bon, tout d'un coup, le train part. On a tout d'un coup des velléités de devenir chef de gare. Enfin, tout à fait amusant. Et là, c'était un peu différent parce que Isabelle partait et le jeune Rémi qui était sur le quai restait, sachant très bien déjà qu'il allait prendre sa moto et la rattraper là où elle allait. Il y avait aussi une émotion un peu olfactive quand il ramassait cette écharpe qu'elle perdait. Alors c'était également une scène de gare que j'aimais beaucoup.
Attention sur voie C. Le TGV va partir. Veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Attention au départ du TGV. The TGV is about to leave the station. Please board the TGV and do not hinder the automatic closing of the doors. Attention, the TGV is leaving the station. Attenzione, TGV in partenza. Vogliate salire in carrozza e non impedire la chiusura automatica delle porte. Attenzione alla partenza.
Est-ce que vous avez amené votre appareil photo, Marc Rébou? Ben, je vous propose de vous suivre peut-être. On va peut-être déambuler dans cette gare de Lyon.
Bon, alors je vais mettre un film. Et si vous m'excusez, je vais travailler. Et un ami me disait, finalement, les photographes rejoignent tous les métiers qui marchent. Ils commencent tous par P. Les putains, les postiers, les policiers, les photographes, nous faisons le trottoir. Et c'est vrai que, comme photographe, nous devons faire... je fais le trottoir pour photographier les gens. C'est là où la vie est la plus intense. Et la gare est un sujet très intéressant, mais je crois que les gens qui sortent d'un train, ils se dépêchent d'aller sur la place de la gare, chercher l'ami qui les attend. On ne peut plus bien attendre des gens le long d'un train. Autrefois, on attendait, là, après, vous savez, on donnait son petit ticket, vous ne l'avez pas connu, gros, comme ça. Et alors, là, on attendait la fiancée, le parent, le père, la mère, suivant l'âge. Mais aujourd'hui, dans la foule, on ne sait plus très bien où attendre. Peut-être qu'on n'attend plus les gens qui arrivent. Et c'est tellement formidable d'être attendu. Et ça, dans l'avion, on n'est plus attendu, on ne peut pas, les avions sont en retard, il n'y a pas d'heure. Et d'attendre quelqu'un, quelquefois, alors on attend le train qui a du retard aussi. Bon. Mais cette vie particulière à la gare, ce rêve que peut, ou cet indice que peut donner une gare sur la ville, je crois que c'est en effet un monde fermé parce que c'est l'âge industriel. La plupart des gares ont été construites à cet âge industriel du 19e, de la fin du 19e. Et elles ont été certaines fois modernisées, mais c'est comme des cathédrales qui ont 4 ou 5 siècles de styles différents. Donc, ce n'est pas du tout une émancipation ou un aperçu ou une ouverture sur la ville. C'est fermé sur soi-même. Et ces immenses halls viennent de la machine à vapeur. On n'aurait jamais construit des gares comme ça, parce que maintenant, on n'a pas besoin de ces immenses verrières. Mais avec la machine à vapeur, la fumée sortait. J'ai connu cette gare de Lyon pleine de fumée, de vapeur blanche, de l'eau qui bouillait dans la machine à vapeur et de fumée noire, du charbon.
Concrètement, est-ce que c'est compliqué de faire des scènes dans des gares?
C'est-à-dire que dès que nous ne sommes pas en studio, vous savez qu'avant la guerre et un peu après la guerre, la plupart des films se tournaient en studio et on contrôlait absolument tout. Quand j'étais tout le monde, j'allais au Châtelet voir le Tour du Monde de 80 jours, je voyais un train sur scène, c'était extraordinaire, je voyais un train. Bon, il y a la magie du théâtre et de l'imagination, parce que c'est comme l'auberge espagnole, il faut que l'enfant amène lui-même son imagination. complète le décor s'il est un petit peu carton-pâte. Lui, là, son rêve fait que c'est un vrai train. D'ailleurs, c'était très bien fait avec les pistons qui fonctionnaient, la vapeur. Bon, mais ça aussi, ça fait partie d'espèces de magie. On est au théâtre et on voit tout d'un coup un train rentrer en scène ou bien un bateau. Maintenant, nous tournons à l'intérieur réel pour les raisons économiques. D'abord, on n'a presque plus de studio. Et nous tournons dans des lieux comme des gares où nous ne sommes pas très confortables, bien que la SNCF nous aide beaucoup, je dois le dire, et nous bloque des quais par exemple. Mais enfin, on a un tel matériel, on est tellement encombrant que nous n'avons pas toujours l'aisance que nous aurions en studio. Et puis le son, parce que ça, on ne peut pas empêcher les gens de prendre leur train, on ne peut pas empêcher un train de démarrer, on ne peut pas empêcher une annonce faite au haut-parleur. Donc on dépend beaucoup de ça, mais enfin, on ne peut pas faire autrement.
La gare a perdu son identité. Elle l'avait donc au moment de la monumentalité architecture métal et vert. Là, incontestablement, on avait choisi donc les nouvelles cathédrales. Hein. C'était très très grande réverbération. Donc, disons le mythe du pas perdu. Ça, c'est ça ce qui a fait l'identité de la gare, avec un signal sonore particulièrement distinct, celui de la machine à vapeur, des freins qui crissent, donc tout un tas de signaux mécaniques d'origine mécanique, qui font que la gare a son identité. Puis, si on compare pas aux aéroports, arrive un certain nombre de phénomènes qui font que, pour la gare, elle a plus de repères. Elle a plus de repères audio. En revanche, l'aéroport, lui, en a. Aujourd'hui, imaginons, vous regardez un film, vous voyez un gros plan, deux personnes s'embrassent, vous entendez derrière le célèbre carillon d'aéroport. Immédiatement, vous avez la signature aéroport. Vous savez que vous êtes dans un aéroport. Vous n'avez pas besoin de voir l'image de l'aéroport. Essayez aujourd'hui de faire la même chose et dire que vous êtes aux abords d'une gare ou dans une gare avec un gros plan, impossible. Il n'y a pas de signature sonore. Alors, il y a eu un nouvel arrivant, si je puis dire, c'est le TGV, qui a un signal sonore assez intéressant, du moins pour les gares qui sont traversées par les TGV, comme les nouvelles gares de Chessy, de Roissy, de Lille. C'est un signal qui est hautement musical pour moi, qui a une véritable identité. Et SNCF a cherché à donner à ses architectures aussi une identité acoustique, en préservant cette monumentalité, mais aussi en créant des zones à acoustique plus, disons, plus intime, plus confortable, là où il doit y avoir un échange. C'est-à-dire les guichets, c'est l'endroit d'attente, etc. Maintenant, il n'y a plus trop de salles d'attente, mais donc des lieux qui soient un peu confortables acoustiquement. Et donc, les gars ont retrouvé une identité, ont retrouvé de la monumentalité. Il y a une signature architecturale. Et donc, par voie de conséquence, lorsque l'architecture est forte, il y a une acoustique qui donne aussi l'identité au lieu. L'architecture, c'est tout un. Les architectes ne le savent pas encore. On peut espérer que du moins ils vont peu à peu s'éveiller à cette dimension du son, qui est toujours déduite, mais malheureusement pas très souvent consciente et peu voulue, peu désirée. Voilà. Donc moi, je serais plutôt pour essayer de travailler dans les dimensions mêmes de la forme architecturale, révéler les qualités, et si l'immeuble n'en a pas, eh bien, on masque à ce moment-là. On l'arrange, on le traite en acoustique. Ça existe, il y a des matériaux qui le font. On a fait ce travail pour la gare de Roissy. Et ma foi, la gare s'en porte bien et l'architecte aussi.
Thank you.
les sens se perdent dans une gare, ou est-ce que c'est un terreau, une besace où on peut prendre ce qu'on veut, on fait son marché, on liste tous les bruits de la gare et puis on les prend, ou est-ce qu'ils se perdent facilement?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux dans les gares. Il y a la salle d'attente, il y a le guichet, et puis il y a la halle, puis il y a les quais. Donc chacun de ces lieux sonne de façon, normalement particulière. Encore que dans les grandes gares 19e, on va citer pour Paris la gare de l'Est, gare du Nord, ce genre de gare, le quai et la gare sonnent à peu près identiquement, puisqu'on est sous des toitures de verre, sous des grandes verrières. Donc on a une réverbération très longue, et même les guichets se trouvent être dans la gare. Mais il y avait ce lieu quand même de conversation assez protégé, et puis il y avait toujours, autrefois en tout cas du moins, ces salles d'attente qui étaient des lieux avec une acoustique extrêmement différente. Alors, est-ce que les sons se perdent ou non? C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se trouvent être amplifiés de compression et de détente. Je veux dire que quand il y a beaucoup de monde, là il y a un fouillis qui est assez étonnant et on peut pas trop y trouver ses petits. Ces événements, quand il y a beaucoup de monde, sont relativement rares quand même. La plupart du temps, il y a un écoulement des flux qui fait que on distingue assez clairement les sons qui sont évidemment qui font une trace. Je veux dire, ce sont pas des points. On pourrait, si on faisait des comparaisons avec la géométrie, ce sont toujours des lignes ou des surfaces. La valise à roulettes qui passe, elle va laisser une grande trace. Un enfant qui crie va occuper un territoire qui est évidemment 10 fois celui qu'il pourrait occuper à cause de la réverbération. Voilà, c'est un univers très particulier. C'est celui des gens, quoi. Des gens qui eux-mêmes vivent une situation particulière, qui est celle du départ ou de l'arrivée. Donc toujours lié à une émotion, à une certaine tension, qui était bien décrite d'ailleurs par les sociologues. Donc les sons se ressentent de ça.
Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9, attention au départ.
J'ai jamais vraiment eu une thématique gare. Il se passe que lorsqu'on travaille sur la ville, il y a pas tellement d'espace consacré où il y a une architecture précise, une acoustique précise et des signatures sonores bien individualisées. La gare réunit tout ça. C'est une architecture monumentale, une acoustique rare en ville, c'est-à-dire une acoustique réverbérante. Pas oublier que dans le temps, c'était le passage dans les églises et cathédrales qui donnaient cette impression acoustique. Maintenant, on n'y va plus. Donc on ne fait, quand on veut de l'immensité acoustique, il faut traverser une gare. Donc, en travaillant quelquefois sur la ville, je me suis intéressé à cette cathédrale sonore qu'est la gare.
Vous aimez cette gare, la gare du Nord?
Oui, ça, je l'aime beaucoup, parce que justement, elle me rappelle ces architectures de Little Nemo, vous savez, ces architectures aussi de Chicago, ces architectures folles du début de siècle, qui sont démesurées, tout en ayant l'attrait aussi des ferronneries, de toutes les choses ouvragées qui signalent la beauté du siècle. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas changé, sauf les horribles fauteuils sur lesquels, glacés en métal, dépoli sur lesquels nous sommes assis, il n'y a pas eu trop d'habillage contemporain. On a même remis en vert de gris les poteaux, donc ça c'est une belle chose.
L'aile où je suis donnant juste sur une gare, j'entends de nuit, mes nuits sont blanches, la bagarre des machines qu'on chauffe et des trains ajustés. Et vraiment, c'est des bruits de nid répercutés à des cieux de fonte et de verre et gras de houille. Et comme l'on dirait des
Zéphor d'Oiselet vers des vols tout prochains, à des cieux violets encore, et que le point du jour éclaire à peine. Paul Verlaine.
Ce livre sur les trains m'a passionné, m'a forcé à piétiner dans les gares. J'avais une autorisation sublime, magnifique, de la SNCF, en principe qui me permettait de tout faire, d'aller dans toutes les gares, partout. Une petite remarque en passant, interdiction formelle de photographier les passagers et les employés de la SNCF. Et comme je ne photographie que les gens, j'avais un petit problème. Mais en fait, vous savez, j'ai photographié les employés, ravis d'être photographiés souvent, les couples d'amoureux, les pigeons, les passagers, les gens qui prenaient le train, les gens qui manquaient le train, à la gare de l'Est, et un train pour Moscou. Peut-être pas tous les jours, il y a un train pour Moscou. Écrit Moskova, et puis gare. Et puis, il y avait une dame russe, c'était avant la chute du mur. Et vous savez qu'en Russie, ils avaient aboli les classes. La lutte des classes, mais on avait aboli les classes de la société. Donc, il ne pouvait pas y avoir dans un train de première classe, ni de deuxième classe. Il y avait les wagons durs et les wagons mous, notre façon de les distinguer. Et il y avait les couchettes et tout ça. Et je vois une dame russe, tout à fait sans doute de l'ambassade, et vous savez que les petites portes pour mettre les bagages, vous savez, comme on a les caddies, pour faire de la publicité, la SNCF avait mis un écriteau « Essayez la première classe et faites la différence ». Et il y avait une dame russe qui avait mis ses bagages là-dedans et qui prenait le train sans classe pour Moscou. Et j'ai la photo quelque part, je vous montrerai « Essayez la première classe ». Eh bien, les Russes ont essayé les différentes de classe et maintenant ils ont d'énormes différentes de classe.
Je reste jamais dans la gare. Par contre, je me lève toujours avant pour vivre l'entrée dans Paris. Et le soir aussi, je ne me couche pas avant que ce n'est pas totalement noir devant la fenêtre. C'est ce passage du centre de Paris à la campagne, pour moi, je ne suis jamais lassé. Je ne suis pas snob. Quand il pleut, c'est magnifique parce que les néons qui se reflètent, quand les journées sont longues comme en été, on vit en même temps que le train s'en va, la nuit arrive. C'est plus passionnant que l'avion où ce passage est très court, n'est-ce pas, de voir à ne plus voir.
Moi qui ne suis pas écrivain, je pense que c'est extraordinairement fécond les gares. Moi, j'avais un grand-père qui était aiguilleur au chemin de fer. C'est un ouvrier qui dirige les trains dans telle direction, etc. C'était un poète du dimanche. Il écrivait en alexandrin. Il avait fait que 4 ans d'école primaire. Et cet homme, très distraitement, avait fait dérailler un train de chemin de fer un jour. Et il habitait au-dessus de la gare de Neuchâtel, en Suisse. Et les bruits de la gare la nuit, le monde ferroviaire, c'est pour des gens confinés comme nous étions, nous, dans nos petites vallées ou dans les petites villes de Suisse. C'était vraiment l'appel du large.
Quand on ne sait pas où donner rendez-vous, en France, on dit devant l'église ou devant le monument aux morts. En Suisse, on dit toujours à la gare. Ou quand il y a un buffet, on dit buffet de la gare.
C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais le nombre de soirées que j'ai pu passer au buffet de la gare de Lausanne jusqu'à ce que je me décide à partir, ah oui, ça a été quelque chose.
Pas le coup, sont devenus une sorte de, je sais pas, de virtuel comme ça. C'est, si on veut comprendre ce que c'est le virtuel, il faut aller dans un aéroport. Parce que l'avion lui-même, c'est du virtuel. On vole, mais on ne s'en rend pas compte. On est assis, ridiculement assis, on ne bouge pas. Tandis que dans le train, c'est autre chose. Enfin, c'était autre chose, parce que maintenant, avec le TGV, je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est vraiment un train. D'abord, il n'arrête pas. Il s'arrête une fois. Alors, si ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'aventure. Comment voulez-vous qu'il y ait d'aventure si le train n'arrête pas? L'avion, c'est la même chose, il ne s'arrête pas. C'est ça le grand défaut de l'avion, c'est qu'il ne s'arrête pas. Alors, il y a la mort, mais la mort, elle est complètement abstraite. On n'a pas peur, vraiment, dans l'avion. On a peur de la peur, mais pas peur vraiment. Tandis que dans le train, il y a l'angoisse, il y a l'inquiétude, il y a toutes sortes de rencontres, il y a... il y a la vie. Dans l'avion, il n'y a pas de vie.
Est-ce qu'il y a une vie forte dans les gares?
Oui, même dans les gares, mais bon, pas comme avant. Avant, c'était... Oui, c'était là.
C'est quand avant?
Avant, pour moi, enfin, comme j'ai presque 60 ans, c'est... c'est beaucoup d'années. C'est aussi les gares de Roumanie, d'où je viens, les gares d'Europe centrale, plein de gares. J'ai passé ma vie à traverser les gares. Alors, j'ai fait le trajet de l'Orient Express plusieurs reprises. Alors, c'était ça, le train. C'était l'envie de descendre, comme ça, n'importe où, en Allemagne, en Hongrie, quelque part. C'est ça. Et puis bien sûr, c'est cette idée de rencontre. Vous savez que Breton, il laissait la porte ouverte de sa chambre à l'hôtel. Bah, le train, il n'avait qu'à aller monter dans un train.
Look yonder coming, coming down that railroad track. Hey, look yonder coming, coming down that railroad track.
Cette rencontre qu'on vient d'avoir, ce garçon qui est roumain d'origine, eh bien, il est apparenté à Ionesco. Et d'après des questions que j'ai posées, il semble que c'est vrai. Il est là. Il n'a pas de travail, il est chômeur, tout jeune, il parle très bien français comme beaucoup de Roumains. Ben, c'est une rencontre qui m'intéresse. Et il vient dans une gare parce que là, il rencontre un autre chômeur, un autre jeune, et ils boivent une bière. Et il n'a pas l'air de dépravé, il n'a pas l'air d'être délinquant, non. Il n'a pas l'air... Il m'a dit beaucoup de choses intelligentes,
oui.
Il nous a parlé de choses culturelles, il sait ce que c'est que France... culture, l'autre sait ce que c'est qu'un Leica. Eh bien voilà, deux garçons qui vont rester jusqu'à minuit à voir passer des gens qui descendent d'un train ou d'autres qui vont prendre un train. Et il reste là, il me dit qu'il n'a personne à Paris, et toute sa famille, ses amis, tout ça sont en Roumanie. Il a voulu quitter la Roumanie qui est pauvre maintenant. Il est dans cette province des Maramureș que je connais bien, dans le nord de la Roumanie, près de la frontière soviétique. Ces rencontres permettent, quand on se promène et on parle, je n'ai pas engagé la conversation, je suis resté devant eux, et un mot, et puis un sourire, et la conversation est venue. Et bien, c'est ce qu'il y a de merveilleux, et d'une gare est peut-être plus propice pour ces rencontres, puisque dans la rue, allez vous arrêter, et bien les gens, non, il fait un peu plus chaud qu'ailleurs aussi. Dans la rue, il y a du vent. C'est tout de même... bien que ce soit pas du tout chauffé, et Dieu merci, mais on se sent dans un univers un peu clos, et donc un peu à l'abri, tout au moins à l'abri de la pluie, de la neige, du vent, et c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à manger et personne à qui parler.
Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Talk about a travel. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the seaboard line.
En fait, la gare, c'est un endroit terriblement affectif.
C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se retrouve à la gare. Pas tout le monde se retrouve dans un aéroport. De plus en plus, mais quand même. Bien sûr qu'il y aura après un clivage première et deuxième classe, mais ça, c'est très interne, c'est très discret. C'est le charme discret des bourgeois dans la première classe. Mais on se retrouve quand même tous à quai. Et je pense que ça, c'est le charme de la ville en général, et surtout le charme de la gare, c'est de rassembler au-delà des clivages sociaux, de rassembler une grande famille humaine, sans apparat, évident. Et après, oui, bien sûr, il y a l'intérieur. Mais vous savez aussi, il y a une chose qui est intéressante, c'est quand on rentre dans le train et qu'on ferme la porte qui donnait sur le quai, et d'un coup, l'écran acoustique devient le wagon et son compartiment. Et je pense que ça, ça est aussi une des jouissances acoustiques du passage dans la gare et de l'entrée dans le train, vient aussi de ces acoustiques en forme de volume gigogne. On est dans le grand volume qui est celui de la gare, après on est dans l'acoustique du grand wagon, et puis après on ferme son compartiment et donc on passe dans des cubages de plus en plus petits jusqu'à entendre après le pli du papier du voisin. Ou alors si on est dans les couchettes, maintenant, le froissement des tissus, l'effleurement des gens. Donc, il y a une échelle acoustique qui est absolument monumentale dans un passage de la gare au compartiment.
Une réduction de l'espace, une réduction et une amplification des sons. Enfin, le son devient de plus en plus intime, de plus en plus isolé.
Oui. Isolé, et il va falloir faire plusieurs démarches de réappropriation de l'espace. Il faut premier vivre des espaces immenses, et puis après, il va falloir se serrer de plus en plus les coudes et arriver au murmure dans le compartiment. Vous savez que quand même, dans un compartiment, maintenant, tout le monde va parler à voix basse. Après être passé par les grands effets fortissimo de la gare. Donc voilà ce qui rend exceptionnel la gare et puis le voyage, c'est que le passager est un auditeur et aussi un acteur très dynamique.
De Londres, ils étaient là, tous deux assis comme endormis. Au bord de la banquette en bois, dans la salle d'attente. Et quand le train est arrivé, tous deux ils se sont regardés, et sans un mot se sont levés, dans la salle d'attente. Et dans leur tête ça glissait, présent, passé, manège. Les souvenirs devenaient présents, le présent devenait souvenir. Et leurs paroles en cortège hésitaient, se troublaient, s'envolaient. Quand dans le train il est monté, c'est elle qui s'en est aperçue, et en courant est revenue dans la salle d'attente. Mais le train avait disparu. Vous ne trouvez pas que c'est idiot, une femme qui marche dans la rue avec une musette et un calot?
C'est beaucoup plus excitant quand on est premier assistant. Parce qu'un metteur en scène, il raconte son histoire. Il est complètement concentré sur ce qu'il raconte. Et peu lui importe où il est, là où il tourne, c'est le studio. Enfin, même s'il est en extérieur, il arrive à faire la part des choses et à se concentrer. Alors que premier assistant, c'est justement lui qui doit faire partir le train, c'est lui qui doit... Bon, et par exemple, dans l'étudiante, j'avais une scène à Dijon avec un TGV. Bon, bien, nous avions loué un TGV, c'est quand même extraordinaire. L'assistant était dans la cabine du TGV avec une radio, Et quand on lui disait « bon, démarre », il demandait, c'est pas lui qui conduisait bien sûr, mais il demandait au conducteur du TGV de démarrer. Et tout d'un coup, le TGV démarrait, les portes se fermaient. Enfin bon, et nous avons fait manœuvrer ce TGV toute la nuit quand nous avons tourné à Dijon. Pour le premier assistant, c'était comme tout d'un coup un rêve d'être dans une cabine de TGV et de faire partir, de faire arrêter, de faire manœuvrer un TGV. Bon, ça c'est amusant. Mais à Dijon, justement, avec ce TGV, nous avions écrit cela avec Daniel Thompson en souvenir d'Yves Montand et de Simone Signoret. Parce que Yves me racontait que quand, dans la grande période de leur vie amoureuse, l'un était à Paris et l'autre était à Nice. Et ils se donnaient rendez-vous le dimanche, puisque nous travaillons 6 jours par semaine à l'extérieur. D'ailleurs, rendez-vous le dimanche, c'était à Dijon. Et ils se retrouvaient là et ils passaient une nuit d'amour ensemble. Ils se retrouvaient donc sur le quai de cette gare. Parce que ces retrouvailles étaient un peu... c'était plus rocambolesque, plus charmant de se retrouver dans un endroit comme Dijon, qui était plus simple, où on ne les connaissait pas, ou en tout cas on ne les reconnaissait pas. Ils pouvaient garder leur incognito. Et ça ajoutait un peu au romantisme de leur rencontre, certainement. Et c'est pour ça que nous avons situé cette scène à Dijon. En fait, quand on s'inspire toujours de faits réels, il y a quelque chose de plus qui passe dans le film. Il y a une sincérité, une authenticité qui est peut-être impalpable, mais qui est là.
Dépêchez-vous, le train va partir.
Dans 7 minutes, le quai doit être vide.
C'est ni un comédien ni un chef de gare. Je suis un ami de la famille.
Mais vous avez le physique de l'emploi, alors, qu'on y croit complètement.
Vous trouvez. Vous trouvez. Si mes amis me regardent, je me demande s'ils vont pas se moquer quand même.
Non, c'était très bien. Vous avez aimé jouer le chef de gare?
Ah oui, j'adorais ça. Ça fait des années que je rêve de ça. Et aujourd'hui, mon rêve est réalisé. C'est vrai. Et puis c'est la casquette surtout, ça c'est 4 étoiles.
Là ça fait rêver, ça aide.
Les 4 étoiles, c'est très impressionnant. Mon père était colonel et là aujourd'hui je suis général.
Je tournais un film au Canada qui s'appelait L'homme en colère avec Lee Ventura et Angie Dickinson. Et nous avons tourné à la gare de Montréal. Et là, c'est une anecdote pour ceux qui connaissent Lee Ventura qui s'en amuseront. C'est que Jean-Claude Carrière, qui avait fait le scénario avec moi, avait vraiment insisté pour que le baiser de Lino Ventura à Angie Dickinson soit vraiment un baiser d'une sensualité tout à fait. Et il est vrai que Lino répugne un peu à ce genre de choses, devant la caméra. J'avais tellement insisté, Lino, je t'en prie, pour cette scène-là, vraiment, embrasse Angie, vraiment, un baiser, vraiment, qui soit tellement sincère, tellement vrai, qu'on y croit, et qui vraiment montre que cet homme aime cette femme. Bon. Et réciproquement, d'ailleurs, Angie ne demandait que ça, de répondre à son baiser. Et alors, c'est Lino était dans tous ses états, et j'avais un travelling qui les accompagnait sur le quai, et qui se terminait à la porte du wagon, et à la fin, donc, de ce long travelling, de dialogue, il y avait le baiser. Alors, différentes prises, je coupais avant si je voyais qu'il y avait n'importe quoi. Bon. Enfin, on fait une prise qui va jusqu'au bout, qui est bonne. Et Lino se trouve devant les lèvres tendues d'Angie, et comme on lui avait tellement parlé, Jean-Claude de Carrière et moi, de cette scène de baiser, il embrasse Angie, mais avec une brutalité, enfin avec moi, telle qu'elle était absolument, elle ne pouvait plus respirer, le baiser a duré assez longtemps, si bien quand j'ai découpé, Angie tout d'un coup a pris sa respiration, s'est dit « Lino Ventura m'a embrassé, Lino Ventura m'a embrassé », elle criait dans la gare parce que c'était la première fois que Lino embrassait une femme dans un film.
Une bonne gare pour moi, c'est une gare où on arrive un peu à l'avance, ou alors on a loupé un train, et il va falloir qu'on arpente les couloirs, qu'on aille chercher peut-être un journal, qu'on regarde des gens, qu'on observe ceux qui y vivent aussi. Et là, de créer une bande-son à ce moment-là, non pas pour le départ, mais pour les articulations à l'intérieur de la gare, les articulations sociales à l'intérieur de la gare, c'est une chose qui, en effet, qui m'intéresse. Et les gens sont tellement gentils et tellement piégés dans une gare. Ils sont piégés par le chronomètre. Les départs sont précis, en principe. Les arrivées sont palpitantes parce qu'on attend quelqu'un, parce qu'il y a de l'événement à l'entrée ou à la sortie. Donc les gens sont captifs et ils seraient un peu des rats. De laboratoire musical, si profitant de cet immobilisme imposé, on les ferait participer à une expérience d'écoute. Ils ne peuvent pas sortir d'une gare, hein, parce que dans une salle de concert, on peut toujours claquer la porte parce qu'on n'aime pas et on le fait savoir. Dans une gare, quoi qu'il se passe, voilà un beau son. C'est formidable. Qu'est-ce que je vous disais sur le fait que quoi qu'on dise, ça devient de la musique?
Ça, c'est les cheminots en grève à la gare du Nord.
Mais écoutez, ce n'est plus qu'un son tribal. C'est une tribu, de toute façon. Ça me rappelle les Indiens d'Amazonie, une région que je connais. Et ça me rappelle le son des Indiens qui se fraient le chemin dans la forêt. Et signalent leur passage ainsi, afin qu'on sache où ils sont. C'est un son de forêt, c'est un son de forêt vierge.
Il y a un écho formidable, hein.
Ouais.
C'est un cœur qui se déplace, hein, c'est...
Claude Pinoteau, réalisateur, Marc Ribou, photographe, Laurent de Troil, graveur, Peter Knapp, photographe, Michel Conta, critique, Daniel Janet, écrivain, Dimitrou Tsepeneag, écrivain, Jean-Marc Jau, acousticien, Louis Dandrel, musicien, Michel Redolfi, musicien. Edwige Roncière, Jean-Louis Boissonnade, Marie-France Nussbaum, Pierre-François.